RFI 6h30 à Abidjan et en temps universel 8h30 à Port-Soudan et Paris. Et tout de suite, le journal de Pierre Boudias à la une. L'opposition ivoirienne toujours déterminée à obtenir la révision de la liste électorale.
Réunie hier, la coalition Cap Côte d'Ivoire s'en est également prise à la commission électorale indépendante. Elle l'accuse de partialité et appelle le gouvernement au dialogue. Au Niger, les djihadistes complexifient leurs attaques. Pour la première fois, des assauts coordonnés ont eu lieu ce week-end dans la région de Dosso, un axe vital pour le ravitaillement des groupes terroristes. La sécurité en Afrique de l'Ouest, justement au menu des évêques de la région. Ils sont réunis depuis hier à Dakar pour une grande conférence qui se déroule tous les 5 ans. L'occasion également d'évoquer le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CDAO. Et puis la culture amazighe s'expose à Marseille. En ce moment, une culture nord-africaine décortiquée du néolithique au 21e siècle. Vous l'entendrez, figure féminine et cycle de la vie se trouve au cœur de cet événement.
L'opposition ivoirienne fait front contre la commission électorale indépendante.
Réunis hier, les membres de la coalition Cap Côte d'Ivoire ont réitéré leur critique contre l'organe qu'ils accusent de partialité. Formée le 10 mars dernier à 6 mois de la présidentielle, cette coalition regroupe plusieurs poids lourds de l'opposition tels que Pascal Affine-Guessant du FPI, Charles Blégoudé du COGEP ou encore Tidjane Thiam du PDCI, des figures qui ont appelé ce lundi le gouvernement au dialogue. RFI Abidjan, Bintadiane.
La Cap Côte d'Ivoire remet en question la liste électorale provisoire ainsi que la commission électorale indépendante. La CEI n'a pas de légalité, affirme la porte-parole de cette coalition, Simone Eyvé, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, qui appelle une fois de plus au dialogue.
La Cap Côte d'Ivoire réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimales nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État.
Cette coalition compte organiser un meeting le 31 mai prochain à Abidjan pour réclamer notamment la réinscription des leaders politiques radiés de la liste électorale. Charles Blégoudé est chargé d'organiser ce rassemblement.
Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années.
Les élections seront apaisées, démocratiques et transparentes, soulignait récemment le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Ce responsable politique rappelle par ailleurs que toutes les questions ont déjà été abordées dans la 5e phase du dialogue politique qui s'est achevée en mars 2022. Bintadiane, Abidjan, RFI.
L'opposition, elle s'est montrée comme jamais depuis plusieurs mois au Mali. C'était ce week-end. Menacée de dissolution, les partis politiques avaient prévu un meeting samedi à Bamako. L'intervention des soutiens de la transition et de la police les en a finalement empêchés, mais pas de quoi décourager les centaines de personnes présentes qui ont exprimé leur colère dans la rue, sur le parvis du palais de la culture dont l'accès venait de leur être interdit. L'occasion d'exprimer un certain ras-le-bol de la transition et leur attachement au retour à l'ordre constitutionnel et à l'organisation d'élections libre. Oumar Berthé est avocat et politologue malien, chercheur associé à l'université de Rouen. Joint par David Baché, il livre son analyse sur ce mouvement inédit, les suites possibles et le risque de répression.
Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en 2020, une telle mobilisation contre les autorités de transition n'avait pas eu lieu. Les organisateurs ont reçu les paris de la mobilisation. Et je pense qu'il est représentatif du ras-le-bol de la société actuelle au Mali, hein, des crises qui se multiplient, la crise énergétique, la crise financière qui en découle, la crise sociale et des répressions féroces que les gens subissent, notamment des emprisonnements dans tous les sens. Et donc, il y a un ras-le-bol qui non seulement est là, mais aussi il y a l'usure qui a atteint les autorités des transitions. En mon sens, il faut s'attendre à ce que les mouvements s'accentuent. Les risques des répressions est très, très élevé, hein. Il n'est pas à exclure que les autorités de transition utilisent la force ou la justice pour réprimer ces contestations et faire peur aussi à ceux qui seraient tentés de s'y rallier.
On rappelle qu'une deuxième manifestation avait également lieu dimanche à Bamako, cette fois à l'initiative des leaders d'organisations de la jeunesse.
Les drones se sont une nouvelle fois abattus sur Port-Soudan ce matin.
Troisième attaque en 3 jours sur la capitale provisoire du gouvernement soudanais. C'est cette fois l'aéroport qui a été visé par les forces de soutien rapide du général Emeti. Le trafic aérien est totalement interrompu depuis ce matin. Épargné jusque-là par les combats, la ville située sur la mer Rouge avait déjà vu des drones kamikazes s'abattre sur son centre-ville et sur le plus important dépôt de carburant du pays. Dimanche, et lundi. Des attaques, il y en a également eu au Niger ce week-end. Assaut coordonné à l'aube dans la région de Dosso au sud du pays. L'axe est vital pour les terroristes. Ils y font circuler leur ravitaillement en armes et en carburant. Et si les djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara prennent très régulièrement pour cible les militaires présents dans cette zone qu'ils tentent de contrôler, c'est la première fois qu'une attaque coordonnée a eu lieu. Les précisions d'Alexis Guilleux.
Une première embuscade menée par des hommes lourdement armés a d'abord visé une patrouille départementale de la région de Douchi à 275 km de Niamey. Quasiment au même moment, trois positions militaires sont attaquées par d'autres terroristes dans les communes rurales de Dankansari, Soukoukoutane et Kiria, des localités situées sur l'axe qui mène à la frontière avec le Mali. C'est la première fois que des actions simultanées se produisent contre les forces de défense et de sécurité dans cette zone. Après un ratissage, un bilan provisoire non officiel fait état d'au moins 8 soldats tués et de 16 portés disparus. Dans chacune des quatre positions attaquées, les djihadistes ont emporté au moins un véhicule de type pick-up. Ces attaques se sont produites sur un même axe, le corridor Douchi et Krafan, frontière malienne, bien connue de l'armée nigérienne. Régulièrement emprunté par les djihadistes, cet axe traverse une zone pastorale et relie le sud du Niger à la frontière malienne via les régions de Dosso et Tillabéri. Les forces nigériennes patrouillent constamment le long de ce corridor pour tenter de mettre un frein aux activités des djihadistes qui l'utilisent depuis des années pour se ravitailler en carburant, armes, munitions et surtout en moto tout-terrain.
Alexis Guilleux.
La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest au menu de la centaine d'évêques réunis à Dakar depuis hier.
À l'occasion de la 5e Assemblée Générale de la Conférence Épiscopale de la région, pendant une semaine, ces prélats venus de 16 pays d'Afrique de l'Ouest sont réunis pour parler des questions qui agitent la communauté chrétienne dans la zone. Et ce, alors que, coïncidence du calendrier, doit se tenir à partir de demain à Rome, le conclave pour désigner le futur pape. À Dakar, les explications de Léa Lisa Westerhoff.
La justice et la paix en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette Assemblée Générale des évêques de la sous-région qui se tient tous les 5 ans. Pendant une semaine, la centaine d'évêques présents va se réunir à huis clos sur tous les sujets qui les intéressent. Aucun ordre du jour n'est rendu public, les plénières sont tenues secrètes. Parmi les problématiques majeures de la région, la crise du Sahel et le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO devraient être au menu de cette rencontre. Selon un membre de l'Église sénégalaise, les divisions politiques ne doivent pas s'inviter dans la communauté ecclésiastique. Les liens de solidarité entre les églises des pays de la sous-région devraient donc être renouvelés. La présence du président Bassirou Diomaye Faye à l'ouverture des travaux aujourd'hui révèle en tout cas le poids que la voix de l'Église a au Sénégal, même dans un pays à 95% musulmans. Autre sujet majeur qui est dans tous les esprits, l'élection du nouveau pape. Même si les conférences épiscopales ne participent pas au processus, les évêques ne manqueront pas d'en parler. Pour beaucoup, l'espoir est de voir un Africain nommé à ce poste et un pape plus conservateur que le précédent. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et je vous rappelle que le portrait des 5 cardinaux africains qui pèseront sur ce conclave sont à retrouver sur RFI.fr. Ils seront 30 à épauler Brice Oligui Nguema à la tête du Gabon. Le président a présenté hier une équipe gouvernementale resserrée 2 jours après avoir prêté serment. Pas de changement au poste régalien de l'intérieur, des affaires étrangères et de la défense. À noter les nominations du PDG du groupe bancaire BGFI Bank, Henri-Claude Ohimia, à l'économie et du jeune technocrate Sossé Nguema au pétrole. 10 femmes font également leur entrée dans cette exécutif. Cette question maintenant, le président ghanéen a-t-il brisé la séparation des pouvoirs? Oui, selon une coalition de 4 partis d'opposition qui manifestait hier à Accra, menée par le nouveau parti patriotique. Elle dénonce la décision de John Dramani Mahama de suspendre le mois dernier la présidente de la Cour suprême. Elle menait contre lui une enquête pouvant aboutir à sa possible destitution. La présidence ghanéenne a toujours affirmé agir dans le cadre de la loi. Les organisateurs du rassemblement, eux, y voient une future crise constitutionnelle. Reportage au sein du cortège de notre correspondant Victor Cariou.
Ceci n'est pas de la gouvernance, mais de la tyrannie déguisée en démocratie.
Face à quelques milliers de manifestants, les mots d'Alexander Ayenfo Markin sont sans détour. Pour le chef de l'opposition parlementaire, le président John Dramani Mahama servirait en réalité un agenda caché, celui de pouvoir briguer un 3e mandat en 2028. Une éventualité rendue possible, selon le député, par la mise en place d'un corps judiciaire soumis au chef d'État, lui permettant d'interpréter la Constitution comme il l'entend.
John Dramani Mahama ne se perçoit désormais plus comme un président, mais comme un autocrate, un dirigeant à vie. Il ne vise pas la justice, mais a envoyé un message aux juges : obéissez ou soyez brisés.
Sans précédent dans l'histoire de la 4ème République, la suspension de la plus haute magistrate du pays est pourtant bel et bien prévue par la constitution ghanéenne. Mais pour Justin Kodua Frimpong, secrétaire général du nouveau parti patriotique, la procédure actuelle ne serait basée sur aucun fondement.
Le président s'est appuyé sur des pétitions frivoles, illégitimes et poreuses. Il doit utiliser la constitution judicieusement en bonne conscience. Là, ce n'est pas le cas.
Les demandes des organisateurs, la réintégration immédiate de la présidente de la Cour suprême et l'interruption totale de l'enquête en cours. Victor Cariou, Accra, RFI.
8h40 à Paris, le dossier de ce journal, Pierre, se penche désormais sur une culture plus que deux fois millénaire.
Celle des Amazighs, au cœur d'une exposition qui se tient en ce moment au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est à Marseille, plusieurs dizaines d'objets, photos, dessins du 19e siècle à nos jours, en plus de quelques pièces archéologiques. Objectif, donner des clés de compréhension de la culture amazigh ou berbère et de sa symbolique, avec au centre la figure féminine et le cycle de la vie. Magali Lagrange a pu la visiter.
Ne pas cloisonner cette culture multimillénaire, le MUCEM met en avant la circulation de la langue et des symboles amazighs à travers l'espace et le temps. Alexis Ornin, directeur des musées du Jardin Majorel de Marrakech, éco-commissaire de l'exposition.
Une des choses qu'essaye de faire cette exposition, de le démontrer, c'est qu'il est plus peut-être question de panamazérité sur un très long territoire, hein, de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries, du Sahel jusqu'au nord de l'Europe, pour ne pas parler des Amériques, où vivent des communautés amazighs, parfois plus nombreuses dans les grandes villes que dans le milieu rural dont elles proviennent, et surtout sur un très long temps historique.
Du néolithique à des œuvres contemporaines, des dizaines d'objets sont exposés, des fibules, des épingles pour attacher un vêtement, aux objets domestiques, en passant par les bijoux, les tatouages sur lesquels se répètent des formes et des symboles similaires pour embellir, pour marquer l'appartenance à un groupe social et pour protéger dans des sociétés rurales soumises aux aléas. L'exposition rend aussi hommage à ceux qui ont documenté la culture amazigh, comme le docteur Sijel Massi au Maroc.
C'est un médecin du travail qui observe les signes, non pas d'une maladie, mais les signes d'une civilisation potentiellement en danger, qu'il classe, surtout au sujet desquels il réfléchit, avant de publier un livre en 1974, qui en montre une double page, qui concerne justement les signes, les tatouages, mais aussi les peintures sur les corps des femmes qui étaient ses patientes.
Motif que l'on retrouve dans des œuvres plus contemporaines, comme la main tatouée au aîné de l'artiste marocain Farid Belkaya.
Et parmi les objectifs de cette exposition, sobrement baptisée Amazigh, illustrer la vitalité de cette culture plutôt que de la renvoyer au passé. C'est justement pour ça que des artistes contemporains sont présents. Aujourd'hui, dans certaines zones, la culture amazigh est encore bien présente dans le quotidien, mais elle est toutefois menacée. Elle pourrait cependant renaître grâce à l'intérêt de jeunes générations, avec toutefois un risque de folklorisation. C'est ce que nous explique l'architecte et anthropologue Salima Nagy, l'autre co-commissaire de cette exposition. Elle est au micro de Magali Lagrange.
On est à un moment où tout n'est pas perdu et où tout est quand même potentiellement moribond, mais qui peut être réactivé parce qu'il y a encore des passeurs de mémoire et des faiseurs de patrimoine. Autant autrefois, le rural était méprisé, autant tout à coup, par les musées, les gens se disent « Ah mais cette culture, qui est ma culture, ah mais elle a une vraie valeur, regarde comme c'est beau. » C'est pour ça que je pense qu'il y a une redécouverte actuellement. Et je vois une jeune génération sur Instagram, ailleurs, qui découvre ça et qui se dit « mais enfin, c'est moi ». Et en fait, ça a de l'intérêt, c'est intéressant. Donc, on est à l'aube aussi de quelque chose qui, quand j'étais jeune, était quelque chose de moribond et qui, aujourd'hui, pourrait mourir, mais sans doute va renaître sous d'autres formes.
Le dossier d'Afrique Matin préparé par Magali Lagrange est à retrouver sur RFI.fr. L'exposition amazigh, c'est donc au MUCEM de Marseille jusqu'au 2 novembre.
Merci Pierre Boudias.